Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'appel du large des deux côtés de la Manche.
Un Premier ministre candidat au municipal au Havre, Édouard Philippe sera tête de liste. Il l'annonce ce matin, nous y reviendrons dans ce journal. Et puis les Britanniques qui larguent les amarres sur ce tube. L'ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen, vient d'atteindre les sommets des charts au Royaume-Uni. La version d'André Rieu que vous entendez est en tête sur Amazon et iTunes, une initiative des anti-Brexit qui auront au moins réussi cela pour l'essentiel, à savoir la sortie du Royaume-Uni de l'UE. C'est raté, ils ne seront pas parvenus à l'empêcher, car à minuit, heure de Paris, le divorce aura sonné. Bonjour Franck Hanson.
Hello, welcome in Calais.
Vous êtes en direct de Calais, effectivement, on est là à 35 km des côtes britanniques. Vous êtes même d'ailleurs précisément sur le port. Les habitants et les commerçants que vous avez rencontrés ce matin, ils sont dans quel état d'esprit, Franck ?
Eh bien, toujours beaucoup d'incertitudes, un peu de brouillard au large ici. Hein. Même si à l'embarquement des ferries, juste en face de nous, pas de bouleversement pour l'instant. Les commerçants se demandent si ces précieux touristes britanniques continueront de s'arrêter. En tout cas, depuis le temps que l'on parle du Brexit, cette fois, ça y est, se dit Jean-François Spy, un restaurateur.
Ça fait quelque chose, oui. On travaille depuis des années avec les Anglais. Maintenant, voilà, c'est le grand jour. Calais, il y a énormément de restaurants, de bars. Hein. C'est les Anglais qui faisaient vivre tout ça. C'est sûr que si on perd ça, on perd au moins 30%.
Et dans la zone commerciale, des Anglais continuent de faire leur plein en vin et bière. Un peu triste.
Je pense que c'est dommage. Ce n'est pas bon pour l'Europe et le Royaume-Uni.
Vous allez continuer de venir ici à Calais en France ?
Oui, j'espère. Cela ne change pas.
On vient pour acheter le vin, mais on est triste à cause du Brexit. Ici, c'est moins cher qu'en Angleterre.
Les grossistes en alcool craignent que ses clients se voient limités en nombre de bouteilles, mais ils comptent aussi sur un possible retour du duty-free, vous savez, ces boutiques détaxées pour doper le tourisme. Mais Brexit ou pas, nous confie un patron de café, c'est surtout le maintien de la livre sterling qui confortera la fréquentation britannique sur le Calaisis sous le crachin ce matin.
Merci beaucoup Franck Hanson, en direct de Calais pour RTL, direction Londres à présent, où l'on vous retrouve, Brice Dugénie, envoyé spécial de RTL. Vous êtes, Brice, devant le Parlement de Westminster, un lieu secoué pendant 3 ans et demi par les débats interminables sur le Brexit. Et paradoxalement, ce matin, eh bien, c'est un vendredi un peu comme les autres.
Oui, seuls les 10 drapeaux disposés sur le Westminster Square, juste en face du Parlement, et puis ceux immenses qui ont été accrochés au réverbère le long de Pall Mall. C'est une large, longue avenue qui mène à Buckingham, un peu l'équivalent de nos Champs-Élysées. Eh bien, à part ça, pas grand-chose ce matin. Certains passants à qui j'ai parlé avaient même oublié que nous sommes le jour J, tellement ils sont habitués à vivre avec ce Brexit depuis plus de 3 ans. Dans son van blanc, Mike, lui, il est intarissable sur le sujet. Il reflète assez bien l'état d'esprit général ce matin, entre incertitude et fatalisme.
Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer parce que je pense qu'on ne sait pas tout. En fait, il n'y a qu'ici au Parlement qu'ils connaissent les détails. Mais c'est vrai, c'est bizarre, car j'ai toujours été européen et je ne sais pas si cela va avoir des conséquences économiques. En fait, je me sens un peu angoissé et un peu triste également.
Ce soir, alors que les Brexiteurs feront la fête, lui, Mike, vivra une soirée normale dans son appartement de la banlieue de Londres. Il dit désormais attendre la fin de l'année et l'issue des négociations politiques entre son gouvernement et l'Europe pour voir quels seront les vrais changements dans son quotidien.
Merci Brice Dugénie, en direct de Londres. S'ouvre effectivement aujourd'hui une phase de transition qui va durer jusqu'au 31 décembre. Les négociations s'annoncent complexes. Comme dirait Winston Churchill, l'idole de Boris Johnson, c'est peut-être la fin du commencement.
RTL Matin, 8h04. RTL Municipal 2020.
Mes tripes ont un goût d'eau salée. C'est ce qu'avait dit Édouard Philippe il y a quelques mois lors de l'université de rentrée de la République en marche. Il parlait depuis sa bonne ville du Havre.
Et il semblait déjà préparer les esprits. Oui, il sera candidat tête de liste au municipal. Il l'annonce ce matin dans un entretien à Paris-Normandie. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour.
Le Premier ministre restera à Matignon en cas de victoire, il le dit. Cette candidature, Benjamin, c'est quoi ? C'est une façon de se relégitimer ?
En tout cas, c'est une manière pour Édouard Philippe de jouer sa petite musique au sein de la Macronie. Il s'était déjà démarqué, souvenez-vous, en ne prenant pas sa carte d'adhérent à La République En Marche, alors qu'il est le chef de la majorité. et ne pas être l'homme d'un camp, et donc désormais, au travers de cette candidature, prouver que lui est un homme ancré dans le terrain, loin du parisianisme. C'est le procès récurrent fait à ses ministres, aux députés En Marche, jusqu'à Emmanuel Macron. Sans attache locale, sans un mandat d'élu de proximité, il serait déconnecté des réalités, y compris le chef de l'État qui n'a jamais eu de mandat local. Le Havre, c'est donc aussi pour Édouard Philippe une façon de s'affranchir d'Emmanuel Macron, sans brusquer, doucement, mais sûrement. Alors, c'est aussi une façon de préparer l'avenir au-delà de 2022. Pour un haut responsable de la majorité, ça ne fait aucun doute. Édouard Philippe sera loyal jusqu'au bout, chef de l'État. Mais que ce soit en cas de défaite ou de victoire du président à la prochaine présidentielle, il lui faudrait alors un successeur. Et Édouard Philippe pourrait faire du Havre une base arrière. Tout cela, c'est de la politique fiction, balaye un proche du Premier ministre. Pour l'instant, glisse cependant un autre ami moins définitif.
Merci Benjamin Sportouche. Il est vrai que Matignon a souvent donné des idées à leurs locataires. Certains appellent déjà Édouard Philippe à quitter Matignon. C'est le cas d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Yann Boucherie vient de le joindre.
Je vois mal maintenant comment il peut rester Premier ministre alors qu'il faut qu'il fasse campagne. Donc ça, je pense que ça entraîne automatiquement sa démission, et sa démission dans un moment où il mène un projet de réforme de retraite dont vous savez tout le mal que nous pensons. Tout ça fragilise le gouvernement de manière évidente. Pour moi, c'est inconcevable, même d'un point de vue démocratique. Ce sont deux mandats, deux missions qui ne sont pas compatibles. Donc peut-être que là, c'est on appelle le soldat Philippe pour au moins essayer de sauver cette ville. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la très vieille politique, pour le coup. C'est vraiment du très vieux monde. Ces élections municipales vont être très, très dures, à mon avis, pour La République En Marche, même quand ils déguisent leur logo. Donc, à mon sens, les ministres qui s'engagent ainsi dans les élections municipales devraient démissionner.
Éric Coquerel avec Yann Boucherie, donc, sur cette candidature d'Édouard Philippe, dont la popularité reste stable pour le troisième mois consécutif, comme celle d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, chacun a 40% d'opinion favorable. Sondage Harris Interactive Epoca. La croissance marque le pas, la croissance économique. L'INSEE vient de publier les derniers chiffres pour l'an dernier, 1,2%. Le dernier trimestre a été particulièrement difficile avec une activité en recul liée aux grèves contre la réforme des retraites. Ce ralentissement ne remet pas en cause les fondamentaux qui restent solides, dit à l'instant Bruno Le Maire.
RTL Matin, il est 8h07.
Les premiers Français rapatriés de Chine sont attendus dans les Bouches-du-Rhône à la mi-journée.
Leur avion militaire a décollé peu après minuit, heure de Paris. Près de 200 personnes à bord. L'appareil se posera à Istres. Le groupe sera ensuite acheminé sous étroite surveillance vers un camp de vacances à Carry-le-Rouet, facilement accessible entre l'aéroport et l'hôpital de la Timone à Marseille. Un paysage de carte postale. Sur place, Étienne Baudu.
Selon les autorités, le cahier des charges était assez clair. Il fallait un endroit agréable où il y ait suffisamment de place. Et ça tombe bien, ce centre de vacances est isolé au cœur d'une vaste pinède. Les voies d'accès sont facilement contrôlables. En tout, 140 chambres, tout confort, dont certaines avec terrasse, vue mer, la mer et ses eaux cristallines accessibles par une plage de galets. Bref, l'idéal pour passer un séjour en quarantaine. Oui, mais voilà, chez les voisins du centre, l'inquiétude est bien là.
L'inquiétude, c'est que le virus se propage, quoi. Surtout qu'on a entendu qu'il y a certains personnes qui rentrent en France, qui n'ont même pas été contrôlées.
Bon, là, ils sont contrôlés quand même, ils sont encadrés.
On espère. Carry, c'est un petit village, on est bien inquiets, quoi.
Manu, lui, en revanche, se veut avant tout accueillant.
Ces gens-là, on ne va pas les laisser dans des camps comme des prisonniers ou les mettre au frioul comme on faisait pour la peste. Voilà, j'espère qu'ils iront bien à la fin de leur séjour.
Et puis certains regrettent d'avoir été mis devant le fait accompli. Ce week-end débutent les fameuses oursinades de Carry. Thierry et Laurence sont restaurateurs.
En plus, on a un week-end d'oursinades, là. Donc, déjà qui sont bloqués sur les médias, quoi. Ils voyaient ça, ils vont pas venir encore. Donc on n'avait pas besoin de ça pour le commerce, quoi.
Et puis finalement, beaucoup attendent l'installation des évacués avant de se prononcer.
Reportage signé Étienne Baudu. On a appris hier la présence d'un cinquième cas de coronavirus en France. Un médecin contaminé par une personne rentrée de Chine. Il est hospitalisé à Paris. Son état n'inspire pas d'inquiétude. L'OMS est enfin décidé à déclarer l'urgence internationale alors que 43 décès viennent d'être enregistrés en 24 heures en Chine. C'est d'ailleurs la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie. Dans l'actualité également, les parties civiles dans l'affaire Barbarin qui se pourvoient en cassation après la relaxe hier en appel du cardinal. Il avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les agissements pédophiles du père Prénat. Philippe Barbarin va de nouveau présenter sa démission au pape qu'il avait refusé la première fois. À Lyon, les paroissiens semblent avoir déjà tourné la page.
Il va partir et qu'il parte. Moi, je souffre pour les victimes. Et il est grand temps que l'Église prenne conscience qu'il y a des victimes. Écoutez, il a sa conscience. la justice l'a innocenté, mais il reste quand même face à sa conscience.
C'est vrai que son image a été très abîmée et je ne vois pas comment il pourrait reparaître en effet dans sa cathédrale. Je le regrette et en même temps je le comprends. Il faut un autre cardinal à Lyon.
Propos recueillis par Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
Dans un court instant, le remboursement du Pass Navigo entre en gare aujourd'hui. C'est la conséquence des grèves. On va vous expliquer tout cela dans une minute.
RTL, 8h10.
RTL Matin.
RTL 8h11, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
La France, une nouvelle fois pointée du doigt pour ses prisons.
Condamnation très ferme de la Cour européenne des droits de l'homme qui l'enjoint à résorber la surpopulation carcérale. Je vous donne les derniers chiffres disponibles. Près de 71 000 personnes incarcérées en octobre pour un peu plus de 60 000 places. Et pourtant, chaque garde des Sceaux présente son plan de lutte contre la surpopulation carcérale.
Alors, tous ces plans n'ont-ils servi à rien? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Anne Le Hénaff. Bonjour.
Bonjour.
Toutes ces places qu'on a créées depuis des années, elles n'ont pas réglé le problème?
Eh bien non, on en crée pourtant des places de prison, mais cela prend du temps. Il faut des mois pour rénover des cellules, 10 ans pour construire une nouvelle prison à partir du moment où on a trouvé un terrain. Par exemple, Nicole Belloubet a promis il y a un peu plus d'un an des nouvelles prisons à Alès, à Angers ou à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Elle ne sera très vraisemblablement plus ministre de la Justice quand ces prisons sortiront de terre. Et dans le même temps, elle a annoncé l'abandon de promesses de ses prédécesseurs. Tous ces plans donc se chevauchent et s'enchevêtrent. Selon l'OIP, l'Observatoire international des prisons, le nombre de places augmente, plus 63% en 30 ans, mais le nombre de détenus a flambé lui aussi, plus 56%, notamment à cause de politiques pénales plus répressives. Les deux courbes se courtent après depuis des années.
La France est régulièrement pointée du doigt, mais quid de nos voisins?
Alors l'Italie, la Roumanie ou la Hongrie, par exemple, ont déjà été condamnés. Selon un rapport du Conseil de l'Europe, la France fait partie des pires élèves du continent en matière de surpopulation carcérale. Juste derrière, la Roumanie et la Macédoine du Nord.
La question de 8h avec ce matin Anne Le Hénaff. Alors satisfait ou remboursé? Ben là c'est plutôt remboursé.
Oui, les abonnés du Pass Navigo en Ile-de-France, dont le quotidien était rendu compliqué par la grève des cheminots contre la réforme des retraites, pourront être remboursés et faire la demande dès aujourd'hui sur ce site www.mondédommagementnavigo.com. 3 millions de personnes sont concernées. Marie Guerrier, expliquez-nous la procédure à suivre.
Eh bien, une fois que vous serez sur le site, il faudra remplir le formulaire que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous avez un abonnement annuel, il suffira d'entrer vos noms, prénoms et le numéro du Pass Navigo. Le logiciel vous reconnaîtra puisque vous êtes déjà référencé. Et si vous effectuez cette démarche avant la mi-février, vous ne serez pas prélevé de la mensualité suivante. Si vous rechargez votre Pass Navigo au mois ou à la semaine, là, le remboursement se fera par virement en inscrivant vos coordonnées bancaires sur le site ou alors par lettre chèque. Ceux qui ont un Pass Navigo découverte devront également fournir pièces d'identité et justificatif de domicile. Un pass mensuel est remboursé en intégralité. Le forfait semaine est remboursé une seule fois, même si vous en avez acheté plusieurs en décembre. Le site mondédommagementnavigo.com sera ouvert 6 semaines à compter d'aujourd'hui. 3 millions de personnes sont concernées.
Explication de Marie Guerrier. En football, la Coupe de France, Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale, vainqueur de Nice 2-1 dans le temps additionnel. En quart de finale, Lyon affrontera donc Marseille, Dijon, le PSG, Épinal, Saint-Etienne et Belfort, le Stade Rennais. Enfin, en Ligue 1, les Rennais justement reçoivent Nantes ce soir. Ce sera à vivre sur RTL entre 20h et 23h.
C'était donc le journal de Jérôme Florin. À 8h35, notre rendez-vous de reportage et de découverte. Ce matin, gros plan sur le bénévolat, ceux qui donnent du temps pour...